info sur VO1 Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour recueillir des commentaires de nos auditeurs dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre. Nous allons nous pencher sur la question de l'alphabétisation, car environ 773 millions de personnes sont analphabètes, dont une majorité de femmes. Selon le PNUD, le taux d'alphabétisation est de 29% au Niger, au Burkina Faso et en Afghanistan, de 30% au Mali, 34% au Tchad, tandis qu'il atteint 92% au Zimbabwe et 93% en Guinée équatoriale. Et sur les 13 pays dont le taux d'alphabétisation ne dépasse pas 50%, 12 sont africains. Mais selon le classement du World Factbook de la CIA de 2020, donc qui est plus récent que celui du PNUD, hein, qui date de 2018, le Niger serait alphabétisé à 19% seulement, le Tchad à 22%. Et la Guinée à 30%, et ce sont les trois pays les moins alphabétisés du monde selon ce classement. Alors comment expliquer le taux d'analphabétisme élevé dans plusieurs pays en Afrique? Quelle solution pour permettre à tous les jeunes et adultes de savoir lire et écrire? Autrement dit, comment éradiquer l'analphabétisme? Avec notamment une question complémentaire plus poussée qui est de savoir si une prise en compte plus profonde des langues africaines dans l'éducation formelle pourrait, selon vous, contribuer à réduire l'analphabétisme. Alors, nous avons en ligne Harouna Baldé qui est au Sénégal. Harouna, comment allez-vous?
Bonsoir madame, bonsoir à tous les éditeurs de la VOA Afrique.
Alors vous dites que pour remédier à ce fléau, il faut de facto prendre en compte justement les langues africaines et former les enseignants. Harouna, on vous écoute.
Tout à fait madame, moi étant instituteur, je pense que c'est la meilleure des solutions pour pallier à ce fléau, voilà, qui gagne la société, surtout ici au Sénégal, parce que comme je l'ai dit dans mon commentaire, beaucoup de gens ici au Sénégal, voilà, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et ça a causé de véritables problèmes dans leur vie quotidienne en quelque sorte. Alors, la solution c'est en formant les anciens, c'est-à-dire les futurs enseignants, c'est de les former non seulement pour l'école française, c'est-à-dire l'école occidentale, mais aussi pour l'alphabétisation, c'est-à-dire en prenant en compte les langues dans chaque milieu, dans chaque région, il y a la langue qui domine. On prend en compte de cela. Je pense que si une fois on essaie de mettre en pratique ce système-là, on va vraiment relever le défi et que vraiment à moins que 89% de la population puisse lire et écrire en quelque sorte. Parce que je pense que ça fait partie du développement d'un pays en quelque sorte. Si tout le monde sait lire et écrire, je pense que les choses vont bien marcher en quelque sorte.
Alors, Harouna Baldé, vous avez dit que vous êtes instituteur. Je voudrais savoir, j'ai une question à vous poser, parce que selon le PNUD, 50% seulement des gens qui sont en âge de pouvoir lire et écrire sont alphabétisés au Sénégal, dans votre pays, et selon même le World Factbook, c'est un petit peu plus, c'est 52%. Pourquoi aussi peu, pourquoi seulement la moitié des personnes censées savoir lire et écrire selon vous?
Alors, madame, nous, on n'a pas un problème de sécurité. Nous, notre principal problème, c'est-à-dire, c'est l'accès, c'est-à-dire, à l'école de proximité, je voulais dire quoi. Parce qu'il y a des zones très reculées là où les enfants ne peuvent pas aller, ne peuvent pas marcher des kilomètres pour aller apprendre. Je pense que ça, c'est un véritable problème. Si on parvient à faire, c'est-à-dire, adopter une autre politique, dans fait, mieux au moins créer une école de proximité pour que les enfants puissent aller à l'école et apprendre. Et autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'abandon très élevé ici au Sénégal, et surtout dans le monde rural. Les gens abandonnent très tôt l'école sans savoir lire ni écrire. Et je pense que ça aussi, c'est un autre facteur qu'il faut vraiment prendre en compte pour remédier ce fléau-là en quelque sorte.
Merci beaucoup, monsieur l'instituteur. On vous souhaite bien évidemment une très bonne continuation. Un grand merci pour votre participation. On a Alphonse Mbouaki qui est en République démocratique du Congo, où le taux d'alphabétisation est de 77%. Alphonse, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir Nathalie, je vais bien. Alors, je pense que c'est une question de volonté. Allô, allô.
Oui, oui, on vous écoute. Allez-y.
Oh, ça, moi, je pense que c'est une question de volonté politique. Hein. Ce n'est pas une question de moyens. Des pays comme la Géorgie, les Kibassons, ne sont pas des pays très riches. Hein. D'ailleurs, qui va être isolé depuis longtemps par les États-Unis. Donc, c'est une question de mettre comme priorité dans les programmes politiques l'éducation et puis l'alphabétisation pour tous. Hein. C'est comme cela qu'on peut arriver à un taux élevé d'alphabétisation. Et donc, vous savez qu'il y a des avantages quand on, les programmes commencent à prioriser d'abord l'éducation dans les secteurs formels et puis l'alphabétisation des populations. Cela permettra aux pays de se développer, aux habitants de se développer. Et ne plus aussi marginaliser la femme. Vous savez, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Et puis, il faut intégrer les langues nationales. Parce que les langues nationales, les langues africaines, sont beaucoup plus compréhensibles que les langues d'importation. Par exemple, vous savez ici que lorsqu'on veut prendre des médicaments, si il y a des posologies à lire, mais lorsqu'on le fait dans les langues nationales, ça sera bien compréhensible pour prendre ces produits. Même nos téléphones, les téléphones que nous utilisons, si on les traduit en langue nationale, ça sera mieux manié par les populations, même les ordinateurs. Donc je pense que l'éducation, l'alphabétisation, c'est un moyen de développement d'une population. Mais lorsqu'il y a recul, donc il y a sous-développement. Aujourd'hui, madame, vous savez que dans les pays arabes, on met beaucoup de l'accent sur les langues nationales. C'est-à-dire que lorsque les hommes politiques arabes voyagent dans les pays occidentaux, ils expriment, les hommes politiques, dans leurs pays, langues arabes, parce qu'ils veulent valoriser leur langue. Donc, vous voyez que c'est un facteur, ce n'est pas seulement les langues de protection qu'on nous a imposées par les colonisateurs qui doivent être primées, mais plutôt nos langues.
Un grand merci Alphonse, un grand merci pour votre point de vue. On a Jim Rongar, Théadou Mozana, qui est au Tchad, comme nous le savons. Au Tchad, où selon le PNUD, 34% des gens sont alphabétisés. Et selon le World Factbook de la CIA, seulement 22% des gens seraient alphabétisés au Tchad. Jim Rongar, bonsoir, à vous la parole.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les invités de VOA Afrique. Moi je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne favorisent pas l'éducation ou la formation ou l'apprentissage de la population. Et il est de la part, la responsabilité incombe aux sociétés qui doivent créer des cadres pour permettre à la population d'apprendre ou d'avoir des connaissances. Mais nous savons qu'en Afrique, la priorité de nos dirigeants, ce n'est pas permettre à la population d'apprendre. Et là, c'est l'une des causes du sous-développement de l'Afrique. Parce que du moment où on n'a pas de la potentialité intellectuelle, du moment où le taux d'analphabétisation est élevé, ça ne permet pas, c'est une entrave au développement. Donc, ce que nous souhaitons, c'est d'investir dans ces secteurs. Les dirigeants doivent prendre conscience et permettre au point que la population essaye on doit remédier au taux. Parce que quand il y a des personnes qui sont illettrées, qui n'ont pas la notion de développement, ils n'ont pas la notion de comment développer les localités, je crois que c'est un risque, c'est un danger. Et avec le temps, nous allons voir que ce taux va grimper. Et là, c'est un grand risque pour le continent africain. Donc, la solution est d'investir, permettre aux gens d'avoir des cadres. Parce que il y a la potentialité, il y a des moyens. Donc, par exemple, au Tchad, dans la localité où je me trouve, il y a manque des écoles, il y a manque des formateurs, des anciens. Mais quand les dirigeants sont en retour, dans l'armement des... C'est trop risquant.
Merci beaucoup.
Nous les interpellons à vraiment réfléchir, à créer des cadres, à avoir des stratégies pour permettre aux gens d'apprendre. Sinon, je pense que c'est vraiment très lamentable si on regarde un peu de ce côté.
Un grand merci, Jim Rangard, Théadoum, pour votre point de vue sur cette question, la question de l'alphabétisation. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du classement du World Factbook de 2020, qui est un petit peu différent de celui du PNUD, qui est plus récent. Alors, celui donc de la CIA dit que les pays qui sont alphabétisés à 100%, bon, 100% c'est un petit peu peut-être exagéré, mais en tout cas, 100% c'est les chiffres qu'on a. Donc c'est Andorre, le Groenland, la Corée du Nord et l'Ouzbékistan. Et la Russie est en 17e position avec presque 100%. On a notamment la Chine qui est en 62e position avec 97% de taux d'alphabétisation. Ensuite on a l'Indonésie, le Mexique, l'Arabie Saoudite et la Guinée équatoriale effectivement qui est à 95% donc d'alphabétisation. Donc c'est le premier le pays africain qui serait le plus alphabétisé. On a ensuite la Namibie, Maurice et la Libye qui sont à 91%. Dans les 80%, 90%, on a 11 pays africains, notamment le Botswana, l'Eswatini, l'Afrique du Sud, Cap-Vert, Zambie, Zimbabwe, Gabon, Tunisie, Kenya, Algérie et Congo-Brazzaville. Ensuite, on a 12 pays africains dans les 70-80% et on a l'Inde également hein, à 74%. Donc, dans ces pays de 70 à 80% d'alphabétisation, on a Lesotho, Tanzanie, Cameroun, RDC, Ghana, Érythrée, Ouganda, Madagascar, Maroc, Rwanda, Égypte, Angola. Et là, on arrive dans les 60-70% d'alphabétisation. On a 6 pays africains, Burundi, Togo, Malawi, Nigeria, Mozambique, Soudan. On arrive aux 50-60%. On a la Guinée, Bissau, Mauritanie, Sénégal, Éthiopie, Gambie, Irak. Et enfin, les derniers. Alors, on a d'abord les 40-50% de taux d'alphabétisation. C'est le Libéria, Sierra Leone, Afghanistan, Bénin, Burkina Faso qui est à 41% d'alphabétisation. Et ensuite, les derniers de la liste, hein, selon ce classement donc, de la CIA, la République centrafricaine à 37%, le Mali 35%, Soudan du Sud 34%, Guinée 30%, Tchad 22% et comme on le disait tout à l'heure, Niger 19%. On a un auditeur en ligne. Alors c'est Jean-Cy Mambila. Jean-Cy Mambila qui est en République démocratique du Congo. Bonsoir, comment allez-vous? Alors, il y a beaucoup de bruit dans votre environnement. Est-ce que vous pourriez vous isoler pour qu'on puisse vous entendre correctement? Allô, Jean-Cy Mambila, est-ce que vous m'entendez? On l'a perdu. On a Charles Bazema qui est au Burkina Faso. Charles, comment allez-vous?
Ça va, madame. Je me porte bien. Et chez vous?
Ça va très bien. Alors, Charles, donc, vous êtes au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, toujours, hein, je suis dans mes chiffres là, on est à, selon le PNUD, 28% d'alphabétisation. Mais on a un chiffre totalement différent selon le World Book Fact. Je ne sais plus comment le dire. Hein, c'est le World Fact Book. Qui est à 41%. Charles, on vous écoute.
Madame, moi, je vais parler de façon générale de l'Afrique. Parce que vous voyez, je veux comprendre pourquoi le taux d'alphabétisation en Afrique est très bas dans les universités. C'est pour que la population reste dans l'ignorance. Vous voyez, tout ce qui se passe dans la sous-région, par exemple, l'éducation des constitutions, la voix. Voilà, etc. Voilà, pour que la population reste dans l'ignorance. Vous croyez que si la population est éduquée, après, qu'elle ce que veut dire les droits, vous croyez que ce qui est dans la suite des gens, ça va arriver? Je ne crois pas que ça va arriver. L'exemple est simple. tout en ne disant pas inclure les enfants à l'étranger. Et les enfants ne quittent jamais en Afrique. Parce que c'est qu'en Afrique, il n'y a pas d'école. Il n'y a même pas d'école. Et puis encore, le système éducatif n'est pas adapté aussi à la réalité de maintenant. Voilà, nous sommes toujours dans l'éducation de 1960, depuis l'indépendance. Voilà, c'est ce qu'il y a jusqu'à présent. Alors, vous voyez comment la population va se veiller. Ça sert de tout que la population se veille. Et il y a encore aussi les anciens qui sont censés nous donner l'éducation aussi. Ils sont mal payés, ils travaillent dans de mauvaises conditions. Et est-ce que vous voyez au 21e siècle, est-ce que c'est normal que nous nous trouvons sur des périodes avec les enfants et puis les petits frères? Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Avec ça, vous voulez comment les gens seront bien éduqués? C'est ça difficile. L'éducation en Afrique ne peut pas évoluer tant que nous sommes plus dirigés par des dirigeants voilà, qui veulent que nous sommes plus d'améliorance. Voilà, ils nous exploitent pour l'effet politique, voilà, pour l'effet électoral, mais le reste, ça ne les regarde pas. Voilà, le reste, ça ne les regarde pas. Voilà, comme on dit, bon, le premier siècle, ils sont toujours en train de parler d'instabilisation. Voilà, c'est honteux. C'est très honteux. Et cela n'a pas le problème aussi de la jeunesse aussi. Mais nous les sommes manipulés par ces gens-là pour tout lui. Voilà. Et à leur époque, l'école était gratuite. Ils étaient payés, voilà, ils étaient logés, nourris par l'État. Mais actuellement, c'est les parents qui doivent prendre toute cette responsabilité. Mais malgré tout, voilà, nous étudions toujours sous des paroles. Les anciens sont mal payés, ils sont mal logés, ils travaillent dans des conditions précaires.
Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci, Charles. Je suis obligée de vous laisser pour qu'on puisse avoir d'autres auditeurs. On a Vincent Seounou qui est en ligne au Bénin. Vincent, bonsoir, à vous la parole.
Oui, bonsoir, chers journalistes. Effectivement, en Afrique, on constate effectivement que plusieurs femmes sont très en internet dans nos pays respectifs, comme dans le monde. Et oui, on comprend qu'elles se marient très vite. Elles aiment trop l'argent pour abandonner l'école pour d'autres préoccupations. C'est-à-dire chercher l'argent, faire des petits commerces. Donc, tout cela, c'est des problèmes qu'on constate énormément. Même d'autres abandonnent pour des raisons diverses qui sont toujours infondées parce qu'elle n'a pas d'argument. Et après tout, ce qu'on a constaté, surtout, c'est le mariage-là. Mais alors, si je comprends bien que si on introduisait nos langues dans ces écoles-là, elles seraient contentes parce qu'on a compris qu'il y a des analphabétiseurs qui éduquent, qui encadrent les femmes. Il était aussi, même les vieux, il était vraiment, ces personnes-là sont très, très contentes. Donc, je vois que si, effectivement, ces nos langues-là sont introduites dans les écoles, ou bien il y a des écoles sociales spéciale pour ces écoles-là, les filles et aussi les femmes iront très bien à l'école. Et c'est-à-dire celui qui ne sait même pas parler sa langue ni lire dans sa langue, c'est un problème fondamental pour lui. Alors que dans mon pays, l'un des articles a bien encadré sera que nos langues nationales doivent être préservées et chacun de nous doit savoir lire et écrire dans sa langue. Donc aujourd'hui, environ 658 langues, aucune langue n'est introduite dans nos écoles pour apprendre et à lire et à écrire.
Merci beaucoup, Vincent. Au Bénin, avant de prendre un autre auditeur, on va citer Jonas BM qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique, je le cite, le taux élevé d'analphabète est causé par la non-assistance des particuliers en premier lieu, par le gouvernement et les organismes de l'éducation, dit-il, car personne ne peut se réjouir de rester illettré ou refuser d'apprendre quel que soit son âge, dit-il. La faute revient aux autorités car les cours se donnent même à distance. Donc ça, c'est la réflexion de Jonas. On essaie de joindre Omar Hassan qui est alphabétiseur et qui dit comprendre la situation des analphabètes. Donc ça serait bien qu'on puisse lui parler. Tout à l'heure, on a essayé d'avoir Jean-Cy Mambila. Malheureusement, on l'a perdu. Donc je vais citer son commentaire. Il a écrit sur le Facebook de VOAfrique, je le cite, l'analphabétisme est élevé dans plusieurs pays d'Afrique à cause d'un système éducatif non adapté aux besoins du continent et du manque de moyens nécessaires dans l'éducation. On a également le commentaire de Massoudi Matoumani. Alors il dit, je le cite, « En Afrique, le taux d'analphabétisme est dû au taux de chômage de misère. On s'intéresse beaucoup plus à la recherche de quoi vivre, car même les moyens de se payer les études sont difficiles pour certains Africains. » Et ils font allusion aussi à ceux qui étudient sans facilement trouver de l'emploi, dit-il. On a un auditeur en ligne, Pascal Kouamé, qui est en Côte d'Ivoire. Pascal, bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir madame, bonsoir la VOA Afrique.
À vous la parole.
Ok, moi je voulais savoir d'abord, quand on parle de l'alphabétisation, c'est ceux qui n'ont pas mis en alphabétisation par exemple, c'est ceux qui n'ont pas mis pied à l'école ou bien c'est ceux qui n'ont pas atteint un certain niveau?
Alors, quand on est analphabète, c'est qu'on ne sait ni lire ni écrire. Il y a aussi, alors c'est pas la même chose que d'être illettré. Quand on dit que quelqu'un est illettré, c'est quelqu'un qui a suivi une formation scolaire, mais qui manque de notions, qui a quand même des difficultés à lire, à écrire, à compter, qui a un petit peu perdu ses notions, ou en tout cas qui n'en a pas suffisamment. Donc l'analphabétisme, c'est ne pas savoir lire et écrire. C'est de cela que l'on parle.
D'accord, merci beaucoup. Le problème de l'analphabétisation, c'est en Côte d'Ivoire, que ce n'est pas en Côte d'Ivoire ou presque dans tous les pays en Afrique, c'est le manque de moyens de l'État. Parce qu'il n'y a pas assez d'écoles. Parce que quand vous prenez les grandes villes où il y a assez d'écoles, pratiquement tous les enfants vont à l'école. Pratiquement, je dis, hormis les parents, excusez-moi pour le terme, les parents musulmans qui, pour une raison ou une autre, ils refusent certains délais, si je l'ai dit dans mon commentaire, pas à l'école, bon, je ne sais vraiment pas pourquoi, je ne sais pas si bon, là, ils ont leur explication à eux, mais à part là, les grandes villes, dans les villes, les enfants, presque tous les enfants vont à l'école, mais le problème c'est au niveau des villages, des endroits où il n'y a pas assez d'écoles, les écoles sont très éloignées. Donc quand c'est comme ça, c'est quelques rares garçons qui vont à l'école, les filles pratiquement pas, donc c'est vraiment compliqué, surtout je commentais par rapport plus souvent, mon commentaire, c'était basé sur les filles. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce que je remarque. Les garçons, la plupart vont à l'école, mais d'autres abandonnent au primaire, partout. Certains, plusieurs abandonnent. Mais les filles, même, il y a beaucoup de parents qui ne veulent même pas les mettre à l'école parce que c'est dit que la fille est faite pour se marier. Même quand tu vas dépasser, si elle demain, c'est prendre une recette, t'envoyer. Donc, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de choses qui sont dites concernant les filles. Donc voilà les problèmes que je pense hein, que tous ces pays-là ils rencontrent. Vous remarquerez que les pays dans lesquels l'alphabétisation est bas, c'est parce que ces pays-là sont pratiquement les pays pauvres et aussi les pays étrangers, c'est telle croyance, tout ça.
Merci beaucoup. Un grand merci, Pascal Kouamé, à partir de la Côte d'Ivoire. Pour terminer, je vais vous citer quelques commentaires de nos auditeurs, nos Facebookers, à Smilou, qui est au Togo, où le taux d'alphabétisation est de 64%. Alors, il a écrit, je le cite, « L'alphabétisation est un autre mode de civilisation que le monde est en train d'adopter pour une telle rééducation. Avec le temps, le peuple comprendra cette nécessité. » Alors, c'est une pensée très profonde, en effet, de la part de Asmaïlou, qui voudrait dire que certaines communautés ne sont pas encore à même de comprendre, en tout cas d'assimiler et de reconnaître l'utilité de la lecture et de l'écriture. Et on sait que de nombreuses personnes gagnent leur vie et ont une activité tout en étant analphabètes. Hein. Mais ce serait mieux si elles étaient alphabétisées. Effectivement, donc la pensée de Asmaïlou, merci beaucoup. On a la réflexion de Moussandia qui dit « Quand j'observe cette nouvelle génération africaine avec ses abréviations loufoques et dénuées de sens, j'en perds espoir. » Alors Moussa, dommage qu'il n'ait pas laissé ses coordonnées pour terminer une petite phrase de Las Gasek, une formidable phrase à méditer. Il dit, je le cite, « Les vrais illettrés à l'âge de l'information ne sont pas ceux qui ne savent ni lire et écrire, mais ceux qui ont appris et refuse de réapprendre. C'était Nathalie Barge avec vous, à la technique et aux appels téléphoniques. C'était Cheikh Thierrot. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.